Service est titulaire du master d'études germaniques obtenu à l'Université Lyon. Pendant son master, il a également étudié la didactique des langues étrangères à l'Université de Heidelberg. De retour en France, il a passé et réussi le concours de l'agrégation, après quoi il a validé un master d'histoire contemporaine, toujours à l'Université Lyon. Dans ses mémoires de master, il s'est intéressé à la civilisation du 19e siècle en étudiant les conflits confessionnels de la société de l'Empire bismarckien. Actuellement, il travaille sur sa thèse, entamée en 2020 sous la direction d'Anne Lamy. Cette thèse est consacrée à l'étude des débats du Reichstag à l'époque du Kulturkampf, conflit politique ayant opposé Bismarck et la majorité libérale aux défenseurs du cléricalisme attachés au pouvoir du roi.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents pour écouter mon exposé. Donc, je m'appelle Aris Markelevitch, je suis doctorant à l'ENS de Lyon. Ma thèse, dirigée par Anne Lani, comme l'a dit Mélanie, est consacrée à l'étude des débats du Reichstag. Et c'est à ce titre, en fait, que je me suis intéressé à la façon dont vivaient les députés du Reichstag à Berlin et que j'ai voulu apporter ma modeste contribution à ce colloque. J'aimerais commencer par rappeler le titre indiqué pour cet exposé. Donc, Berlin, métropole impériale, accueillir les députés du Reichstag en pleine crise du logement. La formulation peut être trompeuse, car elle peut laisser sous-entendre qu'accueillir les députés était un défi pour les autorités publiques et que la municipalité de Berlin était chargée d'aider ces hommes à trouver un logement. Or, ce n'est pas le cas. Une fois élus, les députés devaient trouver un logement à Berlin par leurs propres moyens. Il faut savoir qu'en plus de ça, les députés du Reichstag ne touchaient aucun salaire jusqu'en 1906. Pour ces raisons, j'ai décidé d'organiser mon exposé autour de deux problématiques principales. Premièrement, c'est comment, à l'ère de l'industrialisation et des crises du logement, les différentes façons de se loger reflètent les inégalités entre les députés. Je parle ici surtout de différences sociales. La seconde question qui va guider mon exposé, c'est celle-ci. Est-ce que l'octroi d'un salaire de député à partir de 1906 a permis aux députés d'accéder à des logements de meilleure qualité ? Mon exposé sera composé de trois parties. D'abord, je vais montrer l'ampleur des crises du logement que Berlin connaît en fait à cette époque, ce qui me permettra de faire une transition vers ma deuxième partie, dans laquelle je vais insister sur les inégalités sociales entre les députés, chose qui se reflète dans leur façon de se loger. Et pour finir, dans une dernière partie, je vais examiner plus en profondeur les conséquences de la mise en place d'un salaire de député du Reichstag à partir de 1906. L'objectif sera de déterminer si le salaire modifie drastiquement la façon de se loger. J'aimerais insister d'abord sur le fait que le Berlin de 1871 n'est pas le Berlin de 1914. La période de l'Empire est en fait une phase de transition où Berlin passe du rang de capitale prussienne à celui d'une véritable capitale à l'échelle européenne. Entre 1971 et 1914, l'Allemagne passe de 42 à 67 millions d'habitants et Berlin de 700 000 à 4 millions. À cette époque, l'Allemagne est un pays en plein essor industriel. Comme les autres pays industrialisés, l'Allemagne passe d'un régime démographique où la fécondité et la mortalité sont élevées à un régime où la fécondité est élevée, mais la mortalité infantile faible, ce qui conduit à un boom démographique. L'industrialisation se caractérise par une importance accrue des villes et des exodes ruraux importants. Pendant près de 50 ans d'affilée, Berlin gagne en moyenne 70 000 habitants par an. L'afflux massif de cette nouvelle main-d'œuvre conduit à des crises du logement régulières. L'offre en logement n'arrive pas à suivre cette croissance démographique. Alors, bien sûr, ceux qui sont les plus touchés par ces crises, ce sont les populations ouvrières. Nombreuses sont les familles qui vivent à 5 ou à 6 dans une seule pièce, dans ce qu'on appelle les Mietskasernen. Les toilettes sont souvent des toilettes communes à plusieurs familles et la promiscuité règne. La ville de Berlin est surnommée Das Typhusnest, le nid à typhus, en raison de la diffusion rapide de maladies, ce qui est favorisé par la promiscuité et des conditions d'hygiène déplorables. Le tout est aggravé par la crise économique de 1873, dont les conséquences se font ressentir jusqu'au milieu des années 90. Ce n'est qu'à partir du milieu des années 1890 que la municipalité réussit à gérer tant bien que mal les nouveaux flux, notamment aidés par la construction de plus en plus importante de logements d'entreprise. Ces logements d'entreprise, financés par les grands patrons, permettent de loger bon nombre d'ouvriers mais renforce aussi l'emprise que possède le patronat sur ces gens. De fait, tout au long de l'histoire de l'Empire allemand, de nombreux habitants en fait, de Berlin connaissent une précarité liée au logement et des conditions de vie compliquées. Maintenant, en ce qui concerne le mode de vie des députés, on peut se demander comment ces députés qui se rendent au Reichstag financent leur séjour berlinois. Il faut savoir que même si la fonction de membre du Reichstag ne garantissait pas l'octroi d'un salaire, ce n'était pas le cas des parlements des États fédérés. Par exemple, vous pourriez très bien toucher un salaire en tant que député du Parlement de Prusse. Les députés prussiens siégeaient aussi à Berlin et rien ne les empêchait d'exercer une double fonction. Ils pouvaient être en même temps membres du Landtag de Prusse et du Reichstag. Entre 1871 et 1903, environ un quart des députés allemands étaient aussi en même temps des députés prussiens, ce qui les aidait à vivre à Berlin. D'autres députés étaient obligés d'exercer une activité professionnelle parallèle à leur activité de député. Dans ce contexte, beaucoup de députés exerçaient des activités de journalisme, par exemple, pour des journaux affiliés à leur parti politique. Un autre moyen d'être financé était d'avoir recours aux caisses du parti. Par exemple, certains députés socialistes étaient financés grâce à ces caisses, qui étaient elles-mêmes financées grâce aux dons des adhérents. À ce moment-là, ils devenaient en quelque sorte des fonctionnaires du parti. Mais généralement, ces sommes versées par le parti ne permettaient pas aux députés socialistes de vivre confortablement à Berlin, d'autant plus que l'un des objectifs du Parti social-démocrate était d'envoyer au Reichstag des députés ouvriers. On estime qu'en 1876, il fallait 15 marks par jour pour mener un train de vie modestement bourgeois à Berlin. C'est un standard qui correspondait à la fourchette basse d'un train de vie de député. L'hébergement coûtait en moyenne 3 à 4 marks par jour. Et quand vous ajoutiez à ça les frais de nourriture et de blanchisserie, il ne restait pas beaucoup d'argent en fait aux députés socialistes pour les sorties dans les cafés, dans les restaurants et autres théâtres. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils touchaient en moyenne 9 marks par jour de la part du parti. Alors qu'il fallait donc 15 marks pour mener ce train de vie. De ce point de vue, ceux qui étaient les mieux lotis, c'était les députés issus en fait, de l'aristocratie ou de la grande bourgeoisie qui possédaient des rentes importantes, ce qui leur permettait de loger dans de grands hôtels ou d'avoir une résidence secondaire à Berlin. Donc il faut bien savoir que quand on parle de crise du logement à Berlin, cette crise n'affecte pas tous les députés de la même manière. Certains députés sont très touchés, quand d'autres pas du tout. Concernant maintenant les types de logements occupés par les députés non berlinois, on peut remarquer des différences de standing notables selon les revenus et les métiers des députés. Les députés, par exemple, du Parti social-démocrate, souvent ouvriers ou par exemple journalistes, logent souvent à plusieurs chez l'habitant. Voici le témoignage du député socialiste Wilhelm Bloß, qui était journaliste et vivait dans le même logement avec un autre député journaliste socialiste, Wilhelm Brack. Donc l'autobiographie a été publié en 1914, mais les événements racontés ici datent de la décennie 70. Donc Brack et moi louions la même chambre chez un tailleur. Ce dernier et son épouse étaient complètement analphabètes. Le grand corridor était séparé de nous par un rideau, et derrière ce rideau travaillait et dormait le maître tailleur, ses 6 compagnons, sa femme et ses enfants. Quant aux chambres, elles étaient toutes louées. La seule commodité commune aux 4 étages de la maison se trouvait dans la cour. D'autres députés, plus aisés, vivaient dans des pensions de famille dans lesquelles ils louaient des chambres particulières. D'autres encore s'appuyaient sur leur réseau en faisant appel à leurs amis berlinois. Par exemple, en 1974, le député libéral Friedrich Paya, originaire du Württemberg, loue une chambre privée chez un ancien camarade d'école, un ami d'enfance. De rares députés ont l'immense chance de pouvoir loger chez des parents. Toujours en 1974, le national-libéral Gustav Struckmann, originaire de Hanovre, loge chez son frère et l'épouse de son dernier, ce qui lui permet d'occuper gratuitement une grande chambre dans un appartement luxueux. Dès les années 70-80, les députés les plus en vue essayent aussi de faire attention à leur image publique. C'est le cas de Ludwig Windthorst, le principal dirigeant du Zentrum, le parti des catholiques allemands. Windthorst loue 2 modestes chambres dans la Alte Jakobstrasse, à 15 minutes à pied du Reichstag, et ces 2 petites chambres lui ont été proposées par une vieille veuve catholique qui admirait son travail. Cela montre que certains députés, pas forcément les plus riches, mais en tout cas les plus en vue, peuvent trouver un logement grâce au cercle d'admirateurs et d'admiratrices. C'est aussi le cas de Bebel, le principal dirigeant du SPD. Bien sûr, le choix de logement de Windthorst a aussi nourri son hagiographie, lui qui a toujours été décrit comme le modèle de l'homme catholique pieux. Voici par exemple un extrait d'une biographie de Windthorst, écrite par un journaliste catholique environ 20 ans après sa mort. Donc Windthorst ne s'est pas laissé influencer par les hommages qui lui parvenaient du monde entier. Il est toujours resté ce simple parlementaire à qui deux chambres situées au deuxième étage suffisaient pour se loger. D'année en année, il vécut durant les sessions parlementaires dans la Alte Jakobstrasse à Berlin, chez la veuve Pilatz, qui veillait maternellement sur lui. Enfin, les députés les plus riches louaient une suite dans un hôtel, parfois un hôtel de grand standing. Mais ce dernier cas ne représente qu'une minorité de députés. Dans les années 1870, le parc hôtelier est encore peu développé à Berlin, mais les choses évoluent progressivement. En 1975 est terminée la construction de l'hôtel Kaiserhof, hôtel situé à 15 minutes à pied du Reichstag. Donc l'hôtel Kaiserhof, c'est en fait le premier hôtel de luxe à Berlin. Il compte 260 chambres confortables et modernes. Chaque chambre contient une salle de bain individuelle, ce qui est du jamais vu à l'époque à Berlin, avec aussi un système de chauffage central à vapeur. L'hôtel accueille des diplomates étrangers pendant les conférences diplomatiques internationales. Seule une minorité de députés peut s'offrir un séjour de plusieurs semaines ou de plusieurs mois dans cet hôtel. Ce sont surtout en fait des députés issus de l'aristocratie, des partis conservateurs, du Zentrum, ou sinon des députés issus de la grande bourgeoisie, notamment des membres des partis libéraux. On peut estimer que le pourcentage des députés qui logent à l'hôtel Kaiserhof est entre 5 et 10%, en moyenne, ce qui fait entre 20 et 40 députés sur les 400 environ que compte le Reichstag. En 1881 est achevée la construction du Zentralhotel, situé près de la gare de Berlin-Friedrichstrasse, à 10 minutes à pied du Reichstag. Le Zentralhotel compte 600 chambres et il est moins prestigieux que l'hôtel Kaiserhof. Il attire surtout une clientèle de voyageurs fortunés, et comme l'hôtel Kaiserhof, il est trop cher pour la majorité des députés. Donc, ceux qui y logent, ce sont là aussi des députés aristocrates, des partis conservateurs et du Zentrum, et des députés grands bourgeois des partis libéraux. L'hôtel le plus luxueux, construit à Berlin à l'époque de l'Empire, est sans aucun doute l'hôtel à Adlon, situé près de la porte de Brandebourg, à 10 minutes à pied du Reichstag. L'hôtel à Adlon, terminé en 1907, c'est en fait la quintessence du luxe. C'est un hôtel destiné aux plus grandes fortunes européennes. Donc, pour l'écrasante majorité des députés du Reichstag, ce n'était même pas la peine d'y penser. Maintenant que j'ai dit tout ça, on peut affirmer que pour les députés non berlinois du Reichstag, loger dans un hôtel réputé était un signe de prestige. Les hôtels sont mieux perçus que les locations chez des particuliers ou dans des pensions, surtout car un service de meilleure qualité y est généralement assuré. Entretien régulier des chambres, fourniture de linge de toilette, plus grande présence de sanitaires, service de réception permanent. Dans ce cadre, il y avait des établissements réputés, comme le Kaiserhof ou le Zentralhotel, qui étaient réservés à l'élite sociale des députés non berlinois. Il faut savoir que dans le cadre de ma thèse, je travaille sur les rapports sténographiques des débats du Reichstag, qui sont accessibles en ligne. Ces rapports sténographiques sont accompagnés de documents annexes, notamment de documents qui recensent les lieux de séjour des députés à Berlin. Ces documents ont été réalisés à l'époque grâce à des formulaires remplis par les députés à chaque session parlementaire. Malheureusement, la majorité des députés renseignent dans la case « adresse à Berlin » seulement une adresse. Et il est difficile aujourd'hui de savoir de quoi il s'agissait, si c'était une chambre privée, d'un logement chez des amis, d'une résidence secondaire, etc. Pour établir de quoi il s'agissait, il faudrait que je me rende en fait sur place et effectue des recherches. Mais dans le cas des hôtels, la plupart des députés ont écrit seulement le nom de l'hôtel. Donc par exemple, quand un député logé au Kaiserhof, il n'écrivait pas l'adresse du Kaiserhof, mais juste Kaiserhof ou Hotel Kaiserhof. La même chose pour le Zentralhotel, vous avez un exemple ici. Donc pour cet exposé, j'ai pris en compte trois groupes parlementaires pour essayer de faire une étude comparative. Donc celui du parti conservateur, majoritairement composé d'aristocrates, celui du Parti national-libéral, majoritairement composé de bourgeois, entre autres d'avocats, de grands industriels, de médecins, etc. Et pour finir, celui du SPD, groupe qui compte dans ses rangs des députés issus du monde ouvrier, mais aussi de la petite bourgeoisie. Alors, bien sûr, ça ne signifie pas que tous les députés conservateurs étaient aristocrates, mais je réfléchis, encore une fois, en termes de tendances qui ont pu être identifiées par les historiens. J'ai consulté ces documents annexes avec, à chaque fois, un écart de 5 ans environ. Les noms des députés étaient rangés dans l'ordre alphabétique, et à chaque fois que je tombais sur un député de l'un de ces trois groupes parlementaires, je le classais en fait dans une catégorie. Donc, alors, ces différentes catégories sont les suivantes. Une biscotte noire représente un député non berlinois qui indique loger dans un hôtel. Une biscotte blanche, c'est un député non berlinois qui indique seulement une adresse. Donc, ça peut être une pension, ça peut être chez un particulier, chez des amis, etc. Mais ça peut aussi être, pour les plus aisés, quelqu'un qui vit dans sa résidence secondaire. Donc, j'ai conscience que ma classification possède des failles. En fait, elle est juste fiable pour recenser les députés qui vivent dans un hôtel et pour déterminer des tendances. Ensuite, vous avez les cercles. Les cercles représentent les députés qui mettent Berlin comme lieu de résidence principale et qui ne sont donc pas concernés par la recherche d'un logement. Ce sont en fait les députés berlinois, par opposition aux non-berlinois, qui sont au-dessus et en dessous. Parce que en fait, ce que vous avez en dessous, ce sont des barres diagonales qui représentent des députés non-berlinois qui ne désirent pas, pour une raison ou une autre, répondre à la question. Je pense que ça peut être dû à plusieurs raisons. Il y a des députés qui veulent garder l'information confidentielle, mais je pense que ça concerne surtout les députés qui n'ont pas un lieu d'habitation fixe et qui changent plus ou moins régulièrement de logement, surtout pour des raisons de précarité. J'ai oublié de préciser que chaque ligne remplie représentait 10 députés. Je n'ai pas inclus les données pour les années 1890, mais si vous le demandez, je peux vous les transmettre. En fait, les années 1900 sont dans la continuité de la décennie 90, et ici, je n'ai pas inclus la décennie 90 parce que l'exposé risquait de durer trop longtemps. Bon, vous voyez par exemple qu'en 1900, sur les 45 députés nationaux libéraux non berlinois, 10 déclarent loger dans un hôtel. Ça fait 22%. Chez les conservateurs, c'est 6 sur 46, donc environ 13%. En revanche, chez les 40 députés sociaux-démocrates non berlinois, il n'y en a aucun qui loge dans un hôtel. Cependant, on peut constater que sur le total de 57 députés du SPD, 17 ont déclaré que Berlin était leur lieu de résidence principale, ce qui fait environ 30%. Il faut savoir qu'en 1900, Berlin ne compte que 3 circonscriptions tenues par le SPD. Mais rien n'empêchait les candidats de vivre à Berlin et de candidater pour une circonscription se situant loin de leur lieu de résidence principale. On voit donc que le SPD privilégie les candidatures berlinoises, y compris pour les circonscriptions lointaines, notamment pour éviter ces problèmes de recherche du logement. On remarque aussi que les députés du SPD ont aussi le plus tendance à ne pas indiquer d'adresse, et je pense que ça, c'est dû à l'instabilité de leur logement. Ce sont des députés qui alternent entre différents logements. Ensuite, j'ai mis le tableau pour décembre 1906, soit environ 6 mois après la mise en place du salaire. On voit que les députés qui déclarent vivre dans un hôtel sont en baisse. Je suppose qu'ici, nous sommes dans un moment de transition où les députés commencent à recevoir un salaire, mais n'ont pas encore changé leurs habitudes de se loger. En revanche, pour l'année 1911, on peut constater une hausse généralisée du nombre de députés résidant de manière permanente dans des hôtels. Chez les nationaux libéraux, ça concerne 17 députés non berlinois sur 42, donc 40%. Chez les conservateurs, ce pourcentage atteint 36%. Et pour la première fois, j'ai pu constater, chez les sociaux-démocrates, 3 députés qui déclarent loger de manière permanente dans un hôtel, donc environ 8% des députés socialistes non berlinois. Nous voyons qu'en 1914, Juste avant la Première Guerre mondiale, ce pourcentage reste assez stable chez les socialistes, avec 7%, 5 députés sur 75. Aussi bien en 1911 qu'en 1914, on voit que le nombre de députés socialistes berlinois reste stable, le pourcentage reste stable pour atteindre en 1914 environ 34% de tous les députés socialistes du Reichstag, soit 38 sur 113. Par conséquent, on peut dire que le salaire est bien un facteur qui permet de mieux se loger à Berlin, puisqu'en plus, on remarque aussi que les conservateurs et les nationaux libéraux en profitent aussi. On le voit clairement. Chez les députés nationaux libéraux non berlinois, nous avions 22% qui logeaient dans des hôtels en 1900, puis 8% en 1906. Ces pourcentages atteignent 50% en 1911, puis 41% en 1914. Toutefois, on peut remarquer que malgré la mise en place du salaire, le nombre de députés berlinois n'a pas baissé. Je pense que ce phénomène, qu'on peut appeler une berlinisation en fait, des députés, est dû à plusieurs facteurs, notamment celui de la professionnalisation et de la centralisation progressive des partis politiques allemands. De ce point de vue, on peut dire que le SPD était un parti très berlinisé. Cependant, parmi les députés socialistes non berlinois logeant dans des hôtels, je n'ai recensé aucun résident au Kaiserhof ou au Central Hotel, donc dans les hôtels les plus prestigieux, contrairement aux conservateurs et aux nationaux libéraux, ce qui montre que le salaire n'a pas permis, bien sûr, d'effacer les différences sociales entre les députés. Cependant, on constate que les deux autres partis ont aussi profité de la mise en place du salaire et que le salaire a été le facteur d'une amélioration générale de la qualité du logement des députés. Par conséquent, la réponse à ma question de départ est évidemment oui, le salaire a permis aux députés de mieux se loger, mais j'aimerais aller plus loin que ces évidences et insister sur le fait que ces tableaux permettent de croiser différents phénomènes et processus. Ces phénomènes et processus, c'est premièrement un phénomène très perceptible de berlinisation des députés, notamment dû au fait que Berlin est la capitale administrative de l'Allemagne et que la ville concentre les activités politiques et administratives. Plus un parti se centralise et se professionnalise, plus il a tendance à concentrer ses activités autour de la capitale, phénomène qu'on remarque très bien à travers ces tableaux. Dans les trois groupes parlementaires pris en compte ici, les députés berlinois sont très surreprésentés par rapport au nombre de circonscriptions berlinoises tenues par les partis concernés. En ce qui concerne plus particulièrement les socialistes, qui étaient des parias, en fait, dans les années 70-80, on remarque aussi un phénomène d'intégration dans le système politique allemand de l'époque, en partie, je pense, dû à cette professionnalisation du parti et à l'abandon progressif d'une idéologie révolutionnaire. Ce phénomène d'intégration politique est symbolisé par le fait que des hôtels consentent à accueillir des députés socialistes, chose qui était impensable dans les années 70-80, en raison de la répression que subissait le parti. C'est rare, en fait, j'ai remarqué une tendance souvent en fait, à garder un peu sous le tapis ces problèmes, déjà parce qu'il n'y a pas tous les députés qui écrivent des mémoires ou une autobiographie. Beaucoup d'entre eux en fait, écrivent des mémoires à la fin de leur vie, avec tout un parcours politique qui a eu lieu après les activités parlementaires. Et en fait, c'est souvent des choses dont ils ne parlent pas, ces problèmes du logement. Et j'ai eu un peu de mal à trouver des témoignages. J'ai par exemple consulté l'autobiographie de Chlodwig zu Hohenlohe Schillingsfürst, qui était député dans les années 70, et qui écrit ses mémoires dans les années 1900. Mais entre-temps, il était devenu chancelier. Et donc, son autobiographie, c'est souvent en fait, des justifications de ses décisions politiques durant ces années de chancelier. Mais souvent, ces questions de logement, je crois, ne sont peut-être pas jugées dignes d'être racontées chez les députés. Voilà.
Je voulais savoir, est-ce que tu sais s'il y a un débat national dans le Reichstag sur cette crise de logement? Et si oui, est-ce qu'on voit une relation entre le logement des députés et leur position politique?
Disons que... Oui, le groupe parlementaire qui a le plus insisté sur ça, c'était celui du SPD. En partie pour, on va dire, éviter que les activités du parti se concentrent sur Berlin. Chose qui n'a pas été suivie d'effet. Parce qu'on voit que malgré la mise en place du salaire, ça n'a pas permis à des députés, on va dire, extérieurs à Berlin, forcément, de devenir plus nombreux. Voilà. Oui. Mais oui, il y a eu... pas mal de débats dès les années 70, mais il faut dire que dans les années 70-80, à l'époque bismarckienne, Bismarck tenait particulièrement en fait, à éviter ça. C'était en fait pour... il avait une certaine peur de ce qu'on appelle des politiciens professionnels, et il voulait aussi éviter que des représentants radicaux de la classe ouvrière n'investissent le Reichstag en nombre.
C'était pas un problème pour les députés d'être un... administrativement, si ce n'était pas une complication pour, le, pour être représentatif de Württemberg, par exemple, et loger en même temps à Berlin.
Alors ça, ça pose beaucoup de problèmes, ce qui fait que pas mal, par exemple, c'est vrai que pour les députés en même temps prussiens et allemands, ça pose pas beaucoup de problèmes, vu que les deux assemblées sont situées pas très loin l'une de l'autre. Il est vrai que dans des, pour les États plus lointains, comme le Württemberg ou la Bavière, comme le député touche un salaire du Parlement local, souvent il rechigne en fait à se déplacer à Berlin, ce qui cause beaucoup de problèmes d'absentéisme, c'est vrai. Les problèmes d'absentéisme concernent surtout les États les plus lointains. Voilà. Et donc, ce qui fait que là aussi, en termes de vote, en termes d'activité du Reichstag, ça conduit aussi à une berlinisation en fait, des votes. Parce que les députés les plus présents sont en fait les députés qui sont installés à Berlin, dont c'est leur lieu de résidence principal.
Est-ce qu'on connaît la hauteur du salaire ?
Oui, je l'ai noté ici. En fait, le salaire était d'environ 500 marks par mois. Si je calcule, ça ferait quelque chose comme 16 marks par jour. Ce qui, encore une fois, en fait, correspond à peu près aux 15 marks dont je parlais, mais là, il faut prendre en compte l'inflation. Ce qui, encore une fois, en fait, je pense, permet de mener un train de vie modestement, un train de vie de député modeste. Voilà. Oui.
Est-ce que le logement est du coup relié à une problématique d'exemplarité ? Est-ce que, par exemple, le SPD préconise ou recommande à ses élus de vivre à proximité de ses électeurs et du coup dans des quartiers plus ou moins ouvriers ? Est-ce que c'est une question d'exemplarité ?
Je n'ai rien vu de tel. Par contre, en raison en fait, de la situation générale des députés du SPD, il leur est souvent pas très possible de loger dans des zones trop proches du Reichstag qui sont trop chères en termes de location. Donc en fait, ce que j'ai remarqué chez les députés du SPD, en passant en revue en fait, ces formulaires, c'était souvent en fait, des logements qui sont situés tout de même dans la région de Berlin, mais de fait, souvent dans des faubourgs ou dans des villes proches, ce qui les oblige à, fait, à faire un trajet quotidien avec les transports. Oui. Donc là aussi, nous avons une histoire d'inégalité, je pense, entre les députés. Encore une fois, en ce qui concerne la question en fait, de l'exemplarité, je pense que ça concerne, encore une fois, les figures les plus en vue des groupes parlementaires. Par exemple, le Windhorst, je pense, le fait à dessein. Il y a aussi, par exemple, le cas de Kardorf, qui est le chef du Parti conservateur libre, qui est l'un des hommes les plus riches du Reichstag, parce que c'est en même temps un propriétaire terrien et un industriel qui a réussi, et qui, en fait, loge dans une misérable chambre, et qui, pour le coup, passe aux yeux de l'opinion publique pour un pingre. Il y a des cas de figure très, très différents, en fait. Voilà.